Nous allons poursuivre avec la chronique « À cœur vaillant, la voix est libre ». Certains trouvent ça chaud, la question des adresses mail, mais Laurent et Laurette Costi vont nous aider à y voir plus clair. Une chronique enregistrée il y a quelques jours. Pop hop, ima pouf.
Hello, fille de tes parents et fille préférée de ton père. Toujours besoin d'une adresse mail adaptée à tes besoins, qui respecte ta vie privée et qui t'émancipe des GAFAM et autres prédateurs du web ?
Oui, et j'ai avancé de mon côté, te sachant très occupée en cette fin d'année, à ne pas passer de partiel.
Tu n'as que partiellement raison, car partialitaire je suis passé. Mais dis-moi tout, tu as trouvé la perle rare qui remplacera ton adresse mail intrusive actuelle ?
J'ai passé beaucoup de temps à chercher et, conclusion, j'ai pas pu trop réviser comme je l'aurais souhaité. Du coup, j'ai eu une très mauvaise note en marketing.
Étant donné ce que tu sais déjà sur cette matière en acceptant jovialement de participer à cette chronique, je me dis que si tu avais retranscrit la teneur de nos échanges habituels, la note eût été pire encore. Donc, je te félicite pour cette mauvaise note en marketing. Je suis fier de toi, mais passons à ton inventaire.
Oh merci papa, toi au moins tu sais faire preuve de soutien. Donc, j'avais retenu, dans ma shortlist orange, les services de mail sécurisés et respectueux des utilisatrices et utilisateurs suivants. Il y avait ProtonMail, Infomaniac, Mailo, ZooMail, Tutanota et Fastmail.
Je connais les deux premiers et j'ai entendu parler de Mailo et Tutanota.
J'ai écarté Fastmail directement parce que le site était en anglais. Ça ne me pose pas de problème en soi, mais ça m'évitera d'avoir à te traduire des pages si tu t'inquiétais pour ma vie privée. Puis ça ressemble vachement à un service qui vise prioritairement des anglophones, même si la page Wikipédia précise qu'ils ont des serveurs à New York et aux Pays-Bas.
Ils disent aussi que des êtres humains peuvent être contactés en cas de problème. Alors là, c'est respect. D'ailleurs, je l'affirme ici haut et fort, réinvestir dans l'humain pour le web 3.0, c'est carrément visionnaire. Bon, il reste donc 5 prétendants susceptibles d'honorer la lourde tâche d'acheminer tes correspondances épistoléro-courriélesques pour les semaines, mois et années à venir.
Tu veux dire transporter mes mails en fait. Mais du coup, oui, il y a ProtonMail, Infomaniac, Mailo, ZooMail et Tutanota.
Tu as évalué tes besoins avant de choisir ? Tu sais combien de mails tu envoies et reçois sur une période ? La quantité de données que cela représente ? Pour ma part, à titre indicatif, ayant commencé ma carrière professionnelle avec le mail, alors en plein essor fin des années 90, et surtout rechignant comme personne quand il s'agit de changer mes habitudes, j'utilise beaucoup le mail.
Oui, bah c'est très caractéristique de ta génération, cet amour du mail dans lequel glisser un gif est aussi relou que de faire enfiler une chaussette à un alligator.
C'est de Monsieur de Comptoir cette expression ? C'était quoi son prénom d'ailleurs ? Bon, bref, sur les 5 premiers mois de l'année, j'ai compté 1129 mails pro envoyés et 625 perso, ou liés à mes implications associatives. Comme j'ai des collègues et des amis, j'ai reçu, comme demande ou plutôt comme relance, 1966 mails pro et 1328 mails perso ou associatifs.
C'était Brave son prénom. Brave de Gonzoir. Bon, ça fait beaucoup de mails tout ça. Il doit plus te rester beaucoup de temps pour vraiment travailler. Mais soyons clairs, mon besoin est quand même bien moins grand. D'ailleurs, tu comptes les spams ?
Non, bien sûr. Ils sont majoritairement filtrés par mon fournisseur d'accès ou par Thunderbird, pour lequel j'ai activé les fonctionnalités anti-spam. En passant, tu sais de quand date le premier spam ? Qui l'a émis et dans quelles circonstances ?
Alors, figure-toi que j'ai fouillé les sources que tu compiles laborieusement à chaque chronique, donc oui, je sais répondre à cette question. Et je regagne un bon doudou. Bon, du coup, le site arrobas.org est une vraie mine d'informations sur le sujet. Il n'aura pas fallu plus de 7 ans après l'invention du courrier électronique pour qu'apparaisse le premier spam.
Qui date donc du 3 mai 1978. Ce jour-là, sur le réseau ARPANET, l'ancêtre d'Internet, Gary Tuerk, qu'il soit maudit jusqu'à la 42e génération, commercial de la société DEC, invitait par email 393 personnes à découvrir sa nouvelle machine.
Alors, je crois pas qu'il s'agissait de toilettes connectées, mais le plus truculent dans tout ça, toujours sur arrobas.org, c'est que l'on découvre que Bill Gates, alors patron de Microsoft, sûr de son pouvoir, de sa force et des capacités de programmation de Microsoft, avait annoncé la fin du spam avant fin 2006.
Hey Bill, qu'est-ce que tu glandes ? On est en 2022. Il y a plus de 100 000 milliards de pourriels envoyés chaque jour. On t'attend toujours. Bon, ceci étant, à sa décharge, la complexité technique explique certainement la non-résolution du problème.
Bon, pour avancer sur ma sélection, j'ai lu que ProtonMail n'offrait pas de support POP3 et que le protocole qu'il recommande est l'IMAP. Est-ce que c'est grave, docteur Courrialeur ?
Alors, j'en cause souvent avec mon prédécesseur Pascal Gascoin, mais je suis obligé de reconnaître ici, publiquement, devant les états auditeurs, qu'il a majoritairement raison quand il préconise plutôt l'IMAP devant le POP.
Oh là là, doit y avoir des arguments vraiment lourds pour que tu reconnaisses ta défaite.
Commençons par le début, veux-tu, plutôt que de dire des âneries plus grosses que ton nez au milieu de la figure géométrique de la quadrature du cercle. Tiens, en passant, la quadrature du net fait une campagne contre la Technopolis. Tu devrais aller voir et y signer.
Ton habile tentative de diversion est ratée. Défaite, défaite, défaite et encore défaite. Mais j'irai quand même voir la campagne. C'est pas drôle ces sujets-là, faut comprendre et soutenir.
Bon, commençons par rappeler ce que veulent dire respectivement POP et IMAP. Pour le POP, c'est l'acronyme de Post Office Protocol, littéralement protocole de bureau de poste. C'est le plus ancien des deux protocoles. La première version date de 1984 et le POP 3, la montée de version la plus récente, reste encore utilisée depuis 1988.
Dis-moi pas que cette opération transite sur un réseau TCP/IP qui utilise le protocole de transfert TCP via le port 110. Ce protocole est même défini par la RFC 1939.
C'est exactement ça. Et cette précision, en fait, c'est surtout pour Stéphane Borsmeyer qui relie la chronique. Je crains que si on ne parle que de toilettes connectées, ils finissent par s'ennuyer. En passant, pour mémoire, les RFC sont des documents numérotés décrivant les aspects et spécifications techniques d'Internet, entre autres. C'est primordial pour que tout le monde se comprenne.
Effectivement, ça me semble plus important que nos dérives scato, mais néanmoins logiques, parfois, et surtout très intéressantes. Et pour la IMAP, qui, si j'ai bien compris, est l'acronyme d'Internet Message Access Protocol, soit protocole d'accès à Internet pour la messagerie. Qu'en est-il donc ?
RFC 9051, pour la version 4, révision 2. Et bim ! Deux RFC mentionnés dans une chronique. On frise non pas l'écran, mais le record.
Bon, je me demandais d'où venait ma compétence Lashbot plus 10 dans ma fiche de perso. Bon, maintenant je sais. Et sinon, je dois choisir quoi, moi ? POP ou IMAP, du coup ?
Bon, comme tu me sembles plus jeune que moi, j'aurais tendance à penser que tes usages vont plutôt nécessiter une configuration via le protocole IMAP. Je m'explique. Le protocole POP est adapté lorsque les connexions à Internet ne sont pas continues. Quand tu te connectes, il appelle les messages qui attendent sur le serveur. Ils sont intégralement chargés sur la machine locale. Tu peux choisir d'en laisser une copie un temps sur le serveur, mais quoi qu'il en soit, le résultat est une sorte de désynchronisation. Si tu te connectes avec une autre machine, tu vas appeler une nouvelle fois les messages qui sont sur le serveur si tu les y as laissés, ou rien s'ils ont été simplement aspirés.
Ok, ok. Bon, si je comprends bien, ce protocole est adapté lorsque l'on traite ses mails avec une seule machine. Au début de l'ère numérique, il n'y avait pas de surenchère à utiliser un ordinateur, une tablette 8 pouces, une tablette 11 pouces, un téléphone portable, un téléphone fixe, un ordinateur, une tablette 8 pouces, une tablette 11 pouces, un téléphone portable, un téléphone fixe. Ce qui a l'avantage ou l'inconvénient, c'est selon, de laisser plus de traces comportementales lorsque l'on est connecté en continu.
T'as pas lu deux fois la même phrase ?
Non, non.
L'autre avantage, ou inconvénient, c'est selon, c'est que les messages étaient stockés sur ta machine locale. Certes, il fallait penser à sauvegarder, mais ça évitait pour celles et ceux qui ne font pas attention de laisser indéfiniment des messages sur un serveur lointain et de squatter inutilement des espaces de stockage.
Ok, ok. Et IMAP, du coup ?
C'est le serveur lointain qui stocke et gère les messages. Quel que soit l'appareil avec lequel tu te connectes, ce sera un miroir de ce qui se trouve sur le serveur. Toute action faite à un endroit est répercutée symétriquement et instantanément à un autre endroit. La synchronisation est constante. Le protocole IMAP nécessite une connexion la plus continue possible si on veut gérer de manière fluide ses mails.
Bon, ok, on avance. Comme je consulte mes mails à la fois sur mon téléphone portable et sur mon ordinateur, je vais opter pour l'IMAP. Mais reste à choisir un fournisseur d'accès éthique et respectueux de moi.
Du coup, peut-être que le service offert par ma brique internet que Neutrinet propose et qui tourne sur YunoHost pourrait finalement suffire. Dans ton interface Gmail, dans une phase de transition, tu peux choisir de rediriger cette adresse mail maudite vers une adresse que je peux te créer sur le serveur de mail sur la brique.
Tu me garantis que je vais pas perdre de mail ? C'est quand même pas un peu risqué ?
Non, je peux évidemment rien te garantir. Mais j'ai fait la même chose pour moi et je ne pense pas avoir perdu de mails importants, même si je ne peux pas en être sûr, évidemment. Je mets à jour très régulièrement le serveur, c'est le minimum. Et puis dans un premier temps, pour les mails importants, donne-toi une sécurité. Par exemple, si tu attends un message sensible qui n'arrive pas, recontacte la personne par SMS ou tout autre moyen convenu avec elle.
Oh, c'est quand même pas hyper rassurant. Mais bon, je veux bien poursuivre ma démarche de libération. En tout cas, avec toutes ces questions, j'appréhende mieux tout ce qui se joue avec l'envoi d'un mail, ça c'est sûr. D'autant qu'on n'a pas parlé du mail dans le cadre professionnel ou de l'éducation. Là aussi, il y aurait vraiment des trucs à dire sur les serveurs de mail. Truc de foufou, quoi. Bon, j'attends les informations techniques pour découvrir l'intérieur de ma nouvelle boîte mail et je te poutoute, docteur Courrieleur.
Get ta boîte mail, il y aura plein de bisous dedans. À bientôt.
Alors, nous venons d'écouter la chronique à cœur vaillant La Voix est libre de Laurent et Laurette Costi, sobrement intitulée Pop Pop Imap Pouf. Laurent et Laurette Costi, que nous devrions normalement retrouver dès la rentrée en septembre 2022 pour la prochaine saison de Libre à vous.